Activité physique, nutrition, entraînement, santé mentale, expérience de vie. Voici le balado En action. Une production du groupe Défi. Dans 3, 2, 1, action!
Bonjour et bienvenue à En action. Aujourd'hui, on va parler d'entraînement des athlètes de haut niveau. On est avec François Pépin, qui est entraîneur de haut niveau en ski de fond. Comment ça va, François?
Ça va bien. Toi?
Oui, merci beaucoup. Ça fait longtemps que tu entraînes du ski de fond, déjà en ski de fond. Comment là, ça s'est passé cette année pour entraîner des athlètes? Est-ce qu'il y a eu des exemptions? Nous, tu sais, on ne s'entraîne plus au gym, mais comment ça fonctionne pour un athlète de haut niveau pendant la COVID?
Il y a eu, on était quand même dans les chanceux, là, dans les quatre dernières années, je travaillais avec le Centre national d'entraînement Pierre Harvé et avec le programme de l'équipe du Québec en ski de fond. Donc, beaucoup impliqué autant de haut niveau avec l'équipe nationale que dans les clubs qui ont des sports-études à gérer et la clientèle un peu plus adolescente. Donc, le haut niveau via le Centre national, avec des athlètes excellence et les partenaires essentiels dans l'entraînement, ont eu des exemptions de pouvoir s'entraîner en groupe bulle, principalement parce que ces athlètes-là allaient aller en Coupe du Monde et étaient des potentiels pour Beijing en 2022. Et les partenaires essentiels dans l'entraînement ont réussi à avoir cette exemption-là quand ça a tout refermé à l'automne. Donc, nous, étant un sport d'hiver, le timing a fait que la dernière saison, quand ils ont tout fermé en mars 2020, comme coupé complètement fin à la dernière année, donc pas de championnats nationaux, il y avait des Coupes du monde de privé à Québec qui ont pas eu lieu. Donc, on a débuté notre espèce de période de transition. Le timing était quand même bon. Puis, quand tout a repris à la mi-mai, on a recommencé à avoir le droit de s'entraîner à l'extérieur en respectant 2 mètres. Et avec des petits groupes. Donc, l'été, l'an dernier, a été quand même assez facile parce qu'on est un sport extérieur, parce que le port du masque n'était pas essentiel jusqu'en juillet dans certains contextes. Tant qu'on respectait le 2 mètres et qu'on avait des petits groupes dans l'entraînement, ben on était capable de continuer à s'entraîner. La réalité n'a pas été la même pour tout le monde. Les sports d'été ont beaucoup payé l'an dernier. Les sports intérieurs ont beaucoup payé. Parce qu'on ne pouvait pas aller jouer, on pouvait pas aller plongeon, basket, volleyball, les gyms ont presque tous fermé. Bon, il y a quand même beaucoup de sports qui ont réussi à avoir une saison pareille l'été dernier. Sauf qu'après ça, ben là, à l'automne, quand la deuxième vague est arrivée et qu'ils sont mis à fermer les écoles, ben un peu fermé toutes, ben là, l'INS à Montréal, qui est l'Institut national du sport, a dit, écoutez, il faut que les athlètes d'excellence puissent continuer à s'entraîner. Il y a beaucoup de sports comme le plongeon, entre autres, qui sont chez eux à Montréal, qui pouvaient même pas accéder à la piscine. Fait qu'après 1, 2, 3 semaines, à un moment donné, il a fallu dire... Donc, ils ont réussi progressivement à avoir des ouvertures pour la gang à Montréal. Et là, les centres à Québec ont aussi levé la main en disant « oubliez-nous pas ». Fait que la gang de patins de vitesse longue piste, Laurent Dubreuil, Grégoire Jelinek, la gang qui sont en canoë-kayak sur le lac Beauport avec Fred Jobin, puis moi, je travaille avec Louis Bouchard, qui est entraîneur d'Alex Harvey. Donc, nous aussi, on a dit « Hey, oubliez-nous pas ». Mais on était quand même chanceux parce que les sports extérieurs d'hiver ont quand même pas trop eu de contraintes. Puis, vous avez probablement vu aussi l'attrait des skis et des vélos dans la dernière année. Donc, il y avait beaucoup de gens sur les pistes, ce qui est très bon pour notre sport. Sauf qu'on avait l'air un peu particulier parce que nous, on avait le droit de s'entraîner en groupe en respectant 2 mètres, mais on avait l'autorisation de se regrouper. Donc, ça a été quand même, pour l'équipe nationale, quelque chose de relativement gérable, mais complètement différent de ce qu'on est habitué de faire.
OK. Fait que dans le fond, là, tu parles pour l'équipe nationale, ça c'est une chose, mais mettons, les gens qui sont de niveau, mettons, juste en dessous, là, tu sais, ou dans les équipes de développement, ben les autres, ouais. Comment ça s'est passé?
Ben c'est ça, là, après ça, tu tombes à l'équipe, les athlètes qui sont identifiés élites, qui sont identifiés relève par Sport Québec, donc surtout une groupe de jeunes de 16, 17 à jusqu'à 22, beaucoup au cégep, affiliés à des clubs, affiliés à des groupes universitaires comme le Rouge et Or. Donc, eux se sont retrouvés un petit peu dans l'entre-deux. Parce que le groupe de sport-études secondaires, qui sont des athlètes surtout espoirs, qui cognent à la porte, mais secondaire, donc de 12 à 16 ans. Eux avaient le droit de s'entraîner en sous-groupe parce que c'est relié à l'école secondaire. Mais l'entre-deux, donc avec le cégep, eux devaient s'entraîner de manière individuelle ou à distance, avec l'entraîneur, mais à distance. Donc, il y a eu une période où on avait le droit d'être deux dehors. Donc, j'ai beaucoup d'entraîneurs de clubs qui faisaient du one-on-one avec les athlètes en respectant 2 mètres. Donc, nous autres, pendant l'été, pendant l'automne, les athlètes sont beaucoup en ski à roulette. Donc, c'est des petits skis avec des à peu près de la, je dirais, la longueur de peut-être 2 pieds avec des roues au bout. L'entraîneur pouvait être en vélo peut-être à côté, vous donner de la rétroaction tout en respectant 2 mètres, mais c'est la majorité qu'on a pu avoir. Après ça, ils ont commencé à réouvrir en sous-groupe dans le temps des fêtes pour refermer en janvier. Ils ont réussi à... Donc, les amis pouvaient s'entraîner ensemble, une, mais en respectant 2 mètres. Donc, cette espèce de game-là de... Et il y a eu toute l'incertitude de est-ce qu'on va avoir des compétitions ou est-ce qu'on va pas en avoir. Donc, à un moment donné, à l'automne, en novembre, à la Fédération provinciale, à un moment donné, on a dit, ben là, on tire la plug, puis on lui dit déjà, il y aura pas de saison de compétition. Donc, on a repitché la balle un peu dans les clubs en disant, on va vous donner du financement, mais vous devez commencer à vous organiser un circuit régional d'initiative pour garder les athlètes motivés. Et ça a quand même super bien fonctionné. Okay. Donc, exemple, dans une journée, les athlètes, à l'exemple, eux autres même se chronométraient sur un parcours, genre Strava, pendant l'hiver. Donc, une journée X, pas en groupe, individuel. Puis là, à la fin de la journée, bon, on avait une idée des temps d'un petit peu tout le monde. Okay. Puis, fait qu'il y a beaucoup de clubs qui ont pris la balle en disant, OK, il faut garder nos athlètes motivés. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça a super bien répondu dans les clubs. Tu sais, on n'a pas vraiment redonné. Juste d'avoir un petit 1000, 2000, 3000, 5000 dans chacun des clubs, qui est de l'argent qui habituellement était quand même distribué pour les compétitions, mais qu'on a redonné dans les clubs, les gens ont embarqué beaucoup.
Ouais.
Mais par contre, c'est l'entraînement à distance. Donc, les athlètes se sont beaucoup entraînés seuls dans le groupe élite relève. Et ça, c'est clairement quelque chose qui on va perdre des athlètes à cause de ça, c'est sûr. Dans la majorité des sports, en fait. Ce qu'ils font, on est dans les privilégiés sports extérieurs. Faites juste essayer de penser qu'ils s'entraînent à l'intérieur pendant l'hiver. Puis je dirais, c'est 3/4 des sports. Donc, à quel point des sports comme le soccer va payer de ça beaucoup, ça va être à voir. Sauf que, tu sais, on voit beaucoup l'attrait de vous sortez marcher le soir. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de monde dans les rues. Donc, est-ce que les athlètes vont revenir? Est-ce que les jeunes vont vouloir se réaffilier puis vouloir se remettre à bouger? Je suis assez convaincu que la réponse est oui. Donc, à quel point on va perdre des athlètes? Peut-être pas tant que ça. Sauf que il y a quand même une année perdue.
Mais moi, c'est d'un point de vue kinésiologue, là, j'ai pas le choix de tout le temps penser à ça. Mes deux fils là sont comme en âge de commencer à pratiquer des sports. Là. Il y en a un que, mettons, je l'aurais inscrit au soccer l'été dernier, puis là, il aurait commencé il y a 6 ans. Là. Fait que, tu sais, il aurait commencé à pratiquer ces sports-là, puis mon plus jeune aussi, il aurait commencé l'été dernier. Mais tu sais, dans le fond, eux autres, là, ils ont comme... Ça fait quasiment 2 ans là qu'ils perdent là en termes de développement athlétique. Là. Puis là, tu vas me dire, ouais, c'est bien plus important la santé de la population puis de pas engorger les hôpitaux que le développement athlétique. Je suis entièrement d'accord. Sauf que est-ce que tu penses que ces années-là de développement athlétique vont être perdues à tout jamais ou est-ce que tu as l'impression, mettons, que les athlètes, surtout, en fait, c'est encore plus critique pour les gens qui ont 15 ans, là, tu sais, ou est-ce que quand tu perds une année, ben, est irrattrapable, là, si on veut. Là.
Je vais te repitcher la balle un petit peu de ton point de vue de kinésiologue.
Ouais.
Il y a toujours un âge un petit peu fondamental, surtout dans le nouveau programme amené par Sport Canada et par Sport Québec de développement à long terme de l'athlète, le fameux nouveau programme DLTA qui a été mis en place suite aux Olympiques de 2010. Puis l'âge critique, c'est beaucoup autour de 12 ans, hein, pas mal, qui essayent de nous inculquer. Bon, évidemment, chaque humain est différent. Il y a du « ça dépend » beaucoup là-dedans. C'est juste que c'est pas que tu pourras pas rien apprendre, mais souvent, tu apprends mieux et plus rapidement, plus jeune. Donc, il y a beaucoup de choses que tes, exemple, tes deux gars vont avoir pu apprendre avec toi sur le terrain, mais c'est sûr que ça aurait été un petit peu plus pratique de les enseigner dans le soccer pour qu'ils apprennent la vitesse, la jonglerie des ballons, les choses comme ça. Mais je suis assez convaincu que ils vont pas nécessairement ils perdent au bénéfice parce que les mecs qui rembarquent sur le terrain, les coachs vont tellement être motivés d'aller les rechercher. Et probablement que l'accent va avoir été mis encore plus, va être mis là-dessus. Après ça, ceux qui étaient déjà affiliés dans des sports, donc à 8, 9, 10, 11, 12 ans, 13, 14, ben qu'est-ce qu'ils pouvaient pitcher aux jeunes, les entraîneurs? C'était des propositions de vidéos. C'était des propositions de « OK, il faut que tu travailles ça ». En ce qui te font, nous autres, il y a eu beaucoup, beaucoup de vidéos à l'automne de « OK, voici votre circuit d'entraînement pour aujourd'hui. On fait des sauts, on fait ci, on fait des accélérations. » Il y a beaucoup d'éléments techniques qu'on a travaillé pendant l'hiver puis pendant l'automne qu'habituellement, on n'aura même pas le temps de faire. Donc, le fait de retirer l'espèce de saison de compétition va avoir amené des éléments intéressants pour les sports d'hiver parce que ça a permis aux athlètes et aux coachs de travailler un peu plus sur des choses que d'habituellement, on travaille pas, tu sais, où on met moins l'accent sur neige. Je pense que c'est un peu la même chose dans la majorité des autres sports. Ils peuvent travailler, ils ont eu plus le temps parce que les compétitions n'étaient pas au rendez-vous. Pour le groupe, parce que nous autres, on a quand même, une vingtaine d'athlètes canadiens qui ont réussi à aller compétitionner autant des championnats du monde junior, des championnats du monde senior, des coupes du monde, mais ça reste quand même juste un groupe de 20-30 athlètes. C'est l'étape entre les deux. Après ça, ben moi, je pense que j'ai jamais autant communiqué comme coordonnateur du programme Équipe du Québec, j'ai jamais autant communiqué avec les athlètes. OK, j'ai ce petit bug-là à l'épaule. OK, effectivement, ma nutrition n'est peut-être pas parfaite. Donc, ils ont eu le temps de travailler sur beaucoup d'éléments qu'habituellement, on n'aurait pas mis l'accent autant là-dessus. Ou en idée de « OK, on essaie de faire 100 km dans notre prochaine fin de semaine. » OK, ouais, peut-être que ma gourde n'était peut-être pas assez bien remplie. Peut-être que ça me prend un peu plus que de l'eau, définitivement. Mais un athlète de 14 ans n'aurait jamais pensé à cette étape-là. Souvent, on va le voir à 17-18, là, tu dis « Ben voyons, tu te souviens pas d'avoir essayé ça? Ben non, je l'avais jamais fait jusqu'à maintenant. » Donc, c'est des éléments comme ça, je pense, qui vont avoir été intéressants de la dernière année.
Ben, c'est très intéressant. T'sais, dans le fond, vous avez la chance d'avoir un sport où est-ce que ça se fait relativement bien à distance. Mettons, moi, j'ai joué au badminton pendant longtemps. Le badminton, c'était un peu plus difficile à pratiquer dans ton salon. Là. Tu peux bien te faire un circuit, là, mais à un moment donné, t'es même pas proche de refaire le même sport. Là, je pense que les habiletés techniques qu'on aurait travaillées, en tout cas, bon, sont plus dures à travailler. Mais tu as raison que pour tous les sports où est-ce qu'il y a beaucoup d'endurance fondamentale ou qui se pratiquent bien seul, ben effectivement, que de sauter une saison de compétition, ça n'a peut-être pas tant d'impact parce que dans le fond, tu n'as pas de compétition, mais tu as de la pratique beaucoup. Fait que c'est t'en perds moins que dans d'autres sports.
L'élément le plus important, je pense, ça va avoir été de garder les athlètes motivés, peu importe le sport. Puis ça nous a vraiment remis en question comme entraîneur. Puis je pense qu'on n'a jamais autant communiqué entre nous sur « Hey, tu fais quoi chez vous? » »« Ah, OK, ça me donne des idées. » Puis tu sais, il n'y a jamais eu un aussi gros partage parce qu'on était tous dans le même cas. Faites un Zoom avec mon équipe de coachs provinciaux d'une vingtaine de personnes en octobre. Puis tout le monde est un peu dans le même mood de c'est genre, je suis plus capable, là. OK, bon, OK, c'est nous autres les forts, c'est nous autres les leaders vers où il faut aller. Mais effectivement, c'est pas pour rien que la réaction des dernières semaines, comme le tennis et comme le golf, sur ça prend le port du masque à l'extérieur, la réaction a été comme immédiate en disant, coudonc, vous voulez tuer notre sport? Et je pense qu'ils avaient raison, parce que ça fait un an qu'on pratique des sports extérieurs en respectant le concept du 2 mètres. Donc, les gens qui ont besoin de quelqu'un pour leur envoyer la balle, comme en badminton, les sports d'équipe, évidemment, ont besoin de cet élément-là. Tu sais. Fait que,
Très intéressant, mais en tout cas, je ne veux pas embarquer dans ce débat-là du masque au tennis. Là.
Non. Ce n'était pas ça. Tu sais. Puis je comprends très bien l'élément de la santé publique. Et eux autres, leur but, c'était d'essayer de réduire le plus possible pour qu'on sorte de cette pandémie-là. Je pense que c'était une bonne idée, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de sports que je comprends leur réaction parce que ça fait 4 mois que tu prépares ta saison et là, à 2 semaines, tu te fais dire peut-être que ce sera pas gérable. Fait que,
mais en même temps, je veux dire, à la santé publique, moi, je me mets à leur place, puis tu sais, ils pensent-tu aux autres? Les autres, ils essaient de faire une règle claire pour tout le monde. Ils pensent-tu qu'au tennis, là, tu sais, je veux dire, s'il n'y a pas de joueurs de tennis dans 12 personnes qui font la règle, ben, c'est sûr qu'ils pensent pas, là, tu sais. C'est compliqué, là. Je veux dire, moi, je leur jette pas le blanc, là. Au contraire, là, je voudrais pas,
c'est pas un problème. Ça va être à leur place,
hein? Non, ça va être correct.
Ouais.
Ouais. Fait que ben c'est intéressant. Fait que comment vous avez géré ça d'un point de vue développement en ski de fond là? Est-ce que là je comprends que vous êtes fait des mini compétitions virtuelles. Nous aussi on a fait ça comme organisateur d'événements de course à pied, ben on a fait des mini compétitions virtuelles, puis ça fonctionne bien aussi. Comment t'approches le développement des athlètes dans ce cadre-là? Est-ce que tu vas travailler plus les habiletés techniques comme toute l'année ou est-ce que tu leur fais quand même une périodisation ou est-ce que tu veux qu'ils atteignent un petit pic pour leur compétition virtuelle? Comment ça a été quoi votre approche?
Ben, on était quand même assez chanceux parce que, dans le fond, de notre côté, quand ça a restarté en mai, on était assez positif qu'on allait avoir une saison. Donc, on a recommencé le plan annuel comme habituellement. Donc, une préparation générale qui dure jusqu'à peu près à fin août. Une préparation un petit peu plus spécifique avec une hausse de l'intensité, la recherche de la neige beaucoup à l'automne. Puis là, en novembre, décembre, on a un petit peu réalisé que ça allait pas être faisable. Ce qu'on a fait de différent, nous autres, l'an dernier, c'est qu'on a créé un circuit d'été pour notre groupe d'entraînement. Donc, on faisait beaucoup déjà des courses d'entraînement. La seule différence qu'on a faite cette année, c'est qu'on a mis ce circuit de course-là comme réel, en mettant un petit bonus de carte cadeau ou juste un petit cumulatif. Puis on a vu la hausse du niveau d'intensité puis de sérieux que les athlètes y ont mis était vraiment différente. Moi, je l'ai toujours dit, de mettre un dossard, ça fait toute la différence. L'an dernier, on l'a pas fait parce que évidemment, ça vous tente. Tu sais, tu veux pas désinfecter le dossard des 40 jeunes à toutes les fois, mais l'élément d'ossard fait toute la différence. Donc, on a approché la saison, puis ça a été la même chose dans les clubs. On a même réussi à faire des camps d'entraînement assez gros à la fin août, jusqu'à temps qu'ils referment tout. Là. Donc, la période entre la première puis la deuxième vague a été quand même intéressante parce qu'on a réussi à se regrouper en petits sous-groupes, en respectant le 2 mètres. On a quand même réussi à créer ça. Pendant l'hiver, ben là, c'est ça. J'ai la moitié de ma gang, moi, de plus haut niveau, qui ont réussi à partir pour l'Europe. Et j'ai l'autre moitié qui ont vécu l'espèce. Nous autres, en plus, en étant très chanceux, j'ai une partie de l'équipe qui a eu la COVID. Donc, à l'instant où ça a été rentré dans notre bulle, tout le monde a été arrêté pour 2 semaines et demie. Tout le monde s'est soigné puis on a recommencé. C'est clair que j'ai des athlètes qui vont avoir été affectés par ça. Mais après ça, on a réussi à sortir de ça. Puis je pense qu'on est un peu les seuls à avoir réussi à sortir. On a été les seuls à avoir à gérer ça. Donc, en termes de préparation, ça change absolument rien pour l'instant. Puis on part la prochaine saison là avec le même concept qu'on espère qu'à l'hiver, ça devrait. Tu sais, on est assez optimiste qu'à l'hiver, on devrait être capable de faire des compétitions à tout le moins québécoises, un petit peu. Puis je suis assez certain qu'au niveau canadien, en janvier prochain, ça devrait être ouvert. Et on se doute bien aussi qu'en année de Jeux olympiques, ça va prendre des sélections olympiques. On va prendre des sélections de jeux. Nous autres, les dernières compétitions datent de 2020, donc l'hiver dernier. On peut pas se servir de ça 2 ans plus tard comme résultat. Donc, en termes d'entraînement et de planification annuelle, ça change pas grand-chose pour nous autres en ski de fond. Je peux pas parler nécessairement pour les autres sports, mais pour les sports d'hiver, le timing était bon.
C'est vrai que ça vous a pas... comme il y a des sports qui vont avoir sauté comme 2 saisons. Là. Vous allez en avoir sauté juste une parce que en 2019-2020, vous l'avez pas sauté. Là. Dans le fond, vous l'avez presque complété à, je sais pas, 90% peut-être. Exact. Mais mettons, les sports d'été, eux, ils ont sauté tout l'été dernier parce qu'il y avait pas de compétition ou il y en a eu très, très peu. Là. Ouais. Puis ils vont probablement sauter cet été. Là, tu sais. Bon, en tout cas, tout ce qui est haut niveau puis rassemblement plus interrégionaux, ça, c'est sûr. Peut-être qu'il va y avoir des compétitions en fin de l'été plus régionales.
Ben, tu sais, on va rester optimiste. Je pense que la belle gestion, tu sais, le hockey a poussé fort à la GMQ pour réussir à régler quelque chose. On a vu que la Ligue de l'Ontario, je vais vous prendre 5 secondes pour gérer ma fille, ce sera pas bien long. Bon, excusez, l'école à la maison. Le hockey, sport d'hiver, mais à l'intérieur, la Ligue de l'Ontario a décidé de tout fermer parce que ça fonctionnait pas. Il y a eu des cas d'éclosion. Donc, je pense qu'ils s'en sont bien sortis dans le respect des bulles, mais ça va avoir coûté cher quand même, tu sais, de permettre ça. Puis, il y a juste le sport, le niveau et la JMQ qui vont avoir un peu réussir à s'en sortir. Donc, tu sais. Voilà, c'est ça, exactement.
Puis, les athlètes au travers de tout ça, comment ils vivent ça? C'est quoi leur mindset? Évidemment, tu vas me dire chaque personne est différente, je le comprends, mais mettons, si on prend la moyenne, là, est-ce que les gens ils voient ça comme un défi puis ça les amène à s'entraîner plus? Est-ce qu'il y a des baisses de motivation? Est-ce que vous avez perdu, mettons, un 10%, un 25% de vos athlètes? Comment ils vivent ça?
Ben, on va le savoir un peu plus, je dirais, à la fin de l'été, là, concrètement à quel point on va avoir perdu des athlètes. Ça a pris beaucoup de résilience. Il y a clairement une écœurantite aiguë de tout à distance. Donc, ils s'en sortaient quand même assez bien, nous autres, parce que un coup que l'école était finie, ben, ils prenaient le ski puis ils y allaient. J'ai aussi une gang qui m'ont dit c'est pas mal plus gérable. Dans le sens où plus de transport à gérer. Une partie des cours pouvait se faire live, mais il y a une partie des cours qui était enregistrée. Donc, ils décidaient eux-mêmes quand est-ce qu'ils mettaient. Nous, on est aussi beaucoup un sport qui va avoir un entraînement, surtout à ce niveau-là, un entraînement assez tôt le matin, une période d'école, de dîner, une sieste, puis ils vont retourner s'entraîner en fin de journée. Donc, d'être capable de gérer, et ils continuent toute l'école. Il y a encore beaucoup un concept que si tu veux performer dans un très, très haut niveau, il faut que tu arrêtes l'école. C'est vraiment pas le cas. En fait, ce n'est plus le cas dans pratiquement aucun sport, encore moins en ski de fond, parce que c'est gérant. Évidemment, ils seront pas temps plein à l'université avec un 5 cours. En plus, c'est à 2 cours, 3 cours. Ou au cégep, ça va être un 4 à 5, 6 cours. Donc, évidemment, ça prend plus de temps, mais c'est beaucoup plus gérable. Ils peuvent performer dans le sport et à l'école. Donc, j'en ai beaucoup qui m'ont dit « c'est pas mal plus gérable à distance. T'sais. Sauf que tu perds tout l'aspect social. Donc, l'élément motivation a été beaucoup à garder. Est-ce qu'on va avoir perdu beaucoup d'athlètes? Je ne l'espère pas, mais on va le savoir plus à la fin de l'été.
Mais je suis pas sûr de comprendre pourquoi c'est à la fin de l'été que vous allez savoir. Mettons, là, en ce moment, mettons sur votre groupe d'athlètes principaux, là, est-ce que vous en avez perdu ou est-ce que tout le monde...
Pas dans la situation actuelle.
OK.
Tout le monde me dit, ils reviennent. Sauf que, tu sais, mettons, de la gang de 16-20, j'en ai plusieurs qui font un autre sport. Au Saint-Pierre-Henri, nous autres, le groupe des 15 meilleurs Québécois, on n'en perdra pas. Ils reviennent toutes. J'en perds un, en fait. Fait que, ça, c'est la rétention habituelle. Ils vont tous revenir. Puis dans le programme Équipe du Québec, actuellement, on n'est pas supposé en perdre. Mais on est dans l'espèce d'entre-deux, là, où... Peut-être plus 15 ou le 30 mai, si on réussit à tenir notre premier camp d'entraînement comme on le fait d'habitude, ben là, on va avoir une meilleure idée de... où j'en ai beaucoup. Si je ne tiens pas de camp d'entraînement, j'en ai plusieurs qui vont me dire « Oui, oui, on continue. » Puis là, finalement, tu parles au coach, puis moi, je le vois juste une fois par semaine. Puis là, finalement, rendu à la fin de l'été, combien de temps de vraiment dire « OK, t'en es rendu où? » Ben là, l'athlète réalise que « Ouais, je suis 2 mois en retard, ok, ouais, je suis sur la plaque, parce que la session recommence, puis je suis juste plus là, j'ai trop travaillé, fait que des fois, il espère un peu en disant, oui, j'en reviens, mais finalement, dans les stats, habituellement, dans une saison normale, c'est beaucoup la présence dans les camps d'entraînement d'été qui nous valide si l'athlète est encore là. Là, l'avantage pour eux de la pandémie, c'est qu'ils n'ont pas besoin de se pointer pour dire, ok, je suis encore athlète temps plein. Parce qu'on les voit pas. Fait que c'est assez facile en texto de me dire je suis encore là à 100% sur le terrain.
Je comprends. C'est ça. Je comprends. Parce que vous débutez votre saison là, dans les prochaines semaines. Fait que puis il n'y a pas de test avant l'automne ou il n'y a pas de.
Il y a moins habituellement, de. Habituellement, on essaie de faire un premier camp important à la fin mai, début juin, où on fait vraiment du testing sur la piste de ski à roulettes au Mont-Saint-Anne. Okay. Où on a la quarantaine d'athlètes. On n'est pas super optimiste.
Non, c'est ça.
C'est pour ça que je te dis probablement que le premier gros camp d'entraînement va réussir à regrouper tout le monde, va peut-être être à la fin. Où? Fait qu'ils restent dans leur club comme ça fait depuis un an, dans leur région. Fait que les athlètes qui sont un peu tout seuls, comme j'en ai un qui est à Tremblant, exemple, avec le club Tremblant Nordique, mais que il est le seul de son âge. Donc, idéalement, il faudrait qu'ils descendent dans le bas des Laurentides. Il faudrait qu'ils aillent s'entraîner avec la gang de Montréal ou la gang de Gatineau. Habituellement, on est capable de faire ça une fois par mois via camp d'entraînement. Yeah. Mais là, les déplacements en région ne sont pas recommandés. Donc, ils restent tout seuls. Ouais. Fait que là, il y en a d'autres dans son club, mais ils sont plus jeunes. Fait que il n'y en a pas de son niveau. Fait que là, c'est là où ça devient un élément beaucoup plus difficile. faisable un an, faisable pendant 3-4 ans, non.
Ouais, c'est ça. Quand même. T'as-tu l'impression que ça va vous avoir aidé sur le long terme, cette pandémie-là? On a vu l'été l'hiver dernier là, que les skis de fond étaient sold out. Il y a eu un intérêt. Moi, on a pu. Ben, tu sais, Claude a travaillé avec nous, qui a fait du biathlon longtemps. Elle a publié un article sur comment débuter le ski de fond. Je m'attendais à rien, mais je pense que c'est notre plus gros article de toute l'année. Là. Il a été partagé des dizaines et des dizaines de fois. Puis, je veux dire, il y a comme un regain d'engouement pour ça. Est-ce que tu penses qu'il y a, mettons, de ta perspective, est-ce qu'il y a plus de jeunes qui l'ont essayé? Puis est-ce que tu penses que ça va vous aider à long terme?
Clairement, le niveau de skieur récréatif a augmenté. Moi, j'ai une belle vanne identifié et j'avais jamais eu autant de contact de mes voisins disant ouais toi t'es en ski de fond. tu vois un peu j'ai vécu la même affaire là. Il y a 5 personnes qui m'ont dit pendant l'hiver j'achète tous des skis, ça m'était jamais arrivé en 12 ans. Donc le ski récréatif, je suis assez convaincu. Les gens qui l'ont essayé plus jeune, ah, je pourrais me remettre au ski de fond. À quel point ils vont avoir été en famille, j'ai vraiment hâte de voir. Et aussi, souvent, nous autres, on est capable d'y aller quand on est capable de les affilier dans nos clubs. Parce que ça leur prend un petit peu d'encadrement pour qu'ils veulent y retourner. Parce que souvent, dans l'âge assez critique de 8 à 15 ans, partir dans le bois pendant une heure avec tes parents, quand tu as de la misère un petit peu à bien comprendre le principe du geste, ben, c'est pas l'activité la plus le fun.
Ouais.
D'être avec tes amis dans ce qu'on appelle un terrain de jeu à ski, parce qu'on a un peu le même genre de format comme un parc, où ils peuvent faire des virages, faire des jumps, faire des boss, avoir quelqu'un qui t'encadre et qui te donne des idées d'activité, donc on va aller jouer à la tag en ski. C'est ça qu'on essaye de faire beaucoup avec le groupe de moins de 12 ans. Et éventuellement, on les amène en compétition, puis là, ils ont l'espèce de bulle de hockey. J'aime ça. Je vais vraiment embarquer, mais c'est l'effet beaucoup ami, c'est l'effet plaisir de l'activité. Donc, si les parents sont capables de les embarquer et de les faire revenir l'hiver prochain parce qu'ils ont eu assez de fun, ça va être payant pour nous autres. Après ça, à quel point l'élément compétitif va être boosté par la situation actuelle, j'espère que oui, mais dur à dire à quel point ça va être bon.
Je comprends. C'est vrai que c'est pas le sport le plus sexy là, quand t'as 8 ans, là. Avec tes parents, là, ça prend quelqu'un qui a un intérêt pour le plein air, pour les longues distances. Ça existe.
C'est comme le patin, c'est comme la raquette. Ça peut devenir une activité le fun. Ça peut être, on va aller faire une heure, on va avoir notre petite collation, on va regarder, on va regarder les oiseaux, on va faire tomber de la neige de
sur lui en arrière.
Ouais, c'est ça, sur ton frère en arrière qui va dire, je suis plus capable. Mais,
lui, il en fera pas de ski de fond.
Ben, tu vois, mon frère a réussi à me garder dans le ski de même. Mais, c'est vraiment dur à prédire. Par contre, l'avantage, nous autres, c'est que la fédération provinciale est maintenant aussi la fédération de loisirs. Donc, le niveau de skieur récréatif, ce qu'on espère, c'est qu'on va les garder. Parce que une hausse de participants, éventuellement, amène une hausse de revenus, qui amène une hausse de qualité de piste, qui amène une hausse éventuellement de la lumière dans ces pistes-là, qualité des installations. Le petit chalet au fond du bois, il peut devenir chauffé d'une autre manière. Donc, on passe beaucoup anciennement, les pistes tracées par motoneige une fois par semaine peuvent le devenir une fois par jour par un vrai bombi, un vrai traceur, un peu comme sur les plaines. Sauf que la situation actuelle, c'est que la majorité des centres arrivent, mais ont de la misère un petit peu à arriver parce que c'est encore toujours un concept de « je veux pas trop payer pour accéder au site » ou « je veux que ce soit gratuit, géré par la municipalité » ou comme sur les plaines d'Abraham à Québec, géré par la commission de la Capitale-Nationale, donc financé par l'État. Donc, c'est là que ça devient un peu un intéressant. T'sais, on n'est pas comme le ski alpin où il y a une mentalité de... Donc, il y a ça à bâtir encore un peu pour nous, mais plus il va y avoir des gens dans les pistes, plus la qualité des installations va être élevée et plus ça va devenir payant à long terme pour nous. OK.
Mais pour en arriver à ça, faut que j'ai-tu bien compris qu'il faut que, dans le fond, les gens qui pratiquent le ski de fond de façon comme loisir, il faut qu'ils s'affilient. Est-ce que c'est ça comme votre objectif, de réussir à les affilier
ben,
pour réussir à avoir du financement?
Oui, il faut que les gens soient arrête de se dire que c'est comme une piste cyclable que la municipalité va financer à 100%.
Bonne chance.
Voilà. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'éventuellement être capable d'amener un membre de sa station à devenir un membre de la fédération. Et donc, en ajoutant peut-être, tu sais, une pièce à la passe de saison, exemple, dans tous les centres. Et là, ils vont faire son s'affilier. Et là, on va devenir une organisation beaucoup plus forte, beaucoup plus grosse. Donc, il y a ça plus de financement. Puis ça, ben, c'est une roue qui tourne. Mais en premier, faut commencer à dire aux gens, il faut, dans notre système actuel, la manière dont c'est fait, ben, ça nous prend, faut prouver à l'État qu'on est un gros sport. Sauf qu'actuellement, on n'a pas les chiffres. Ben, on le sait parce que ton voisin t'en a parlé, puis parce qu'on a vu tout le monde dans les pistes. Mais concrètement, dans nos statistiques, ça devient difficile un petit peu. Fait que, donc, ce qu'on espère éventuellement, puis ça va amener une certaine qualité aussi aux pistes qu'on peut avoir, puis une certaine redevance à nos membres après.
Je comprends. Fait que, tu sais, pour vous, c'est pas une... Dans le fond, la pandémie, évidemment que pour le développement du sport d'un point de vue haut niveau, c'est pas l'idéal, là, puis ça vous a affecté, mais moins probablement que d'autres sports. Par contre, si on regarde le long terme, ce que je comprends, c'est que l'impact, si c'est bien, si vous l'utilisez de façon adéquate, puis vous essayez d'en profiter le plus possible, bien, ça peut avoir un impact relativement bénéfique sur le long terme en termes d'augmentation de la quantité de skieurs, d'affiliation et de revenus ensuite pour la fédération, c'est ce que je comprends.
Ouais, puis le gros message actuellement dans les clubs, c'est communication, marketing, aller chercher justement les familles que vous avez vues l'an passé en disant devenez membre du club, devenez affilié non seulement comme passe de saison à la station, mais devenez membre de l'équipe de compétition, sans nécessairement être un skieur compétitif, mais ça va faire que vous allez avoir un meilleur encadrement, puis vous allez avoir des amis qui veulent en faire avec vous. Puis après ça, si vous faites une compétition pendant l'hiver, c'est correct. Puis même, j'ai beaucoup d'athlètes qui sont là sans nécessairement faire des compés à 8, 9, 10 ans, mais ils sont là pour le groupe, viennent à tous les dimanches, viennent suivre leur cours de ski, mais ils sont là pour le groupe. Un peu comme on fait des cours de natation pour apprendre à nager, ben c'est un peu le même principe, sauf qu'avec ça, tu amènes un certain encadrement. Donc, c'est là, le gros message actuellement, c'est beaucoup sur la communication, sur le marketing, puis sur dire à quel point le ski de fond, c'est cool.
Ça fonctionne-tu bien, ça? Parce que, tu sais, des fois, les clubs, ça devient très élitiste vraiment vite, puis il n'y a pas toujours ce réflexe-là de marketing, comme tu dis, puis de outreach, là, d'aller chercher du monde à l'extérieur. Comment ça fonctionne-tu bien, cet effort-là, marketing?
On a encore beaucoup de mœurs à tuer. Je te ferai pas de cachette, là. T'es dans un club de compétition, ça te prend le race suit, puis il faut t'aller vite. Donc, on essaye beaucoup de vendre aussi le concept de cours de ski. Donc, un programme, entre autres, comme les Jackrabbit. Sauf que on dirait que c'est encore un petit peu des mondes en parallèle. Nous, ce qu'on essaie de créer, c'est une fusion. C'est pas parce que t'as le manteau écrit Club Nordique Mont-Saint-Anne ou la balade à Saint-Jacques-Chrysostome ou n'importe quel autre club. C'est pas parce que t'as un manteau écrit ça dessus que nécessairement c'est juste les élitistes, c'est ouvert à tous. Puis c'est comme ça que tu as du plaisir avec des amis. Même principe qu'une équipe de baseball, même principe que... Donc, ce qu'on essaye beaucoup éventuellement, c'est d'embarquer un peu plus dans les plans de la municipalité comme offre de cours de ski ou comme offre d'équipe de compétition, comme l'île baseball, comme l'île soccer, comme l'île natation. Fait que, donc, on essaye d'aller... Je te dirais de battre contre les mœurs un peu. T'es pas obligé d'avoir un race suit pour faire du ski de fond puis avoir du fun à faire ça. Okay.
Cool. Ben merci François pour ton. C'est très éclairant là, d'avoir ton point de vue d'entraîneur qui est là puis qui est impliqué dans toutes sortes de structures de développement en lien avec le ski de fond pendant cette pandémie-là. C'est pas facile. Moi, je vous lève mon chapeau. Là, nous, on fait plus. Je veux dire, c'est un milieu, là, le développement sportif dans lequel j'étais impliqué pendant longtemps puis qui est vraiment intéressant, mais honnêtement, là, ça a dû être vraiment... je me mets dans tes chaussures, là, puis ça a dû être vraiment difficile, tu sais, oui, d'un point de vue réaliser ses activités, mais aussi d'un point de vue des fois moral, là, ça devient un peu décourageant quand ce que t'aimes, finalement, tu peux pas le faire. Là. Fait que, en tout cas, je vous lève mon chapeau, puis je vous souhaite bonne chance pour... bon succès pour la suite.
Je peux te repitcher la balle parce que je le sais à quel point l'événementiel a été difficile cette année. Donc, tu sais, lâchez pas. Puis, ouais, je pense que vous avez quand même pris la balle au bon aussi pour aller chercher les entreprises un petit peu plus, puis voir que c'est réalisable de continuer à le faire pareil. Mais on est un peu dans le même, dans le même monde du sport et de l'événementiel, ça reste difficile.
Ouais.
Donc, on continue à bouger, on continue à se mettre en action. Puis, merci beaucoup pour la plage de communication.
Merci à toi. Salut François.
Ciao.